Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Jean Dombre. Jean, tu es un historien. Notre champ d'action va être finalement très limité, puisqu'on va se placer en 1814. Alors, fais-nous un tout petit rappel d'histoire comme on fait à l'école primaire. Qu'est-ce qui se passe en 1814 ?
Napoléon rentre vaincu. Il y a eu la bataille de Leipzig des coalisés. Il rentre vaincu à Paris et il essaie de s'en sortir brillamment, mais ça ne marche pas. Et le tsar Alexandre arrive le 30 mars à Paris. Le régime est fini. Napoléon n'a pas encore abdiqué et le Sénat doit prendre une décision vis-à-vis du pouvoir napoléonien.
On va parler beaucoup aujourd'hui du héros de la journée. Tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est un très grand mathématicien, physicien, un peu tout, quoi.
Un peu tout, oui.
Il s'agit de Pierre-Simon de Laplace, qui était à l'époque peut-être le scientifique le plus auréolé de gloire.
Les Anglais disent à la même époque de lui, c'est la Royal Society dit, c'est le French Newton, le Newton français. Donc voilà ce que les Anglais le disent, montre en tout cas sa renommée. Il est né en 49, 1700, donc c'est un homme de plus de 60 ans. Et ce qui est un phénomène étonnant, c'est que vers 1800, donc lorsqu'il a 50 et des poussières d'années, il décide, et c'est très précis, décide d'arrêter la science. Et il se fait qu'au moment où il décide, les choses sont un peu compliquées autour de lui. Enfin bref, il réussit deux phénomènes, là sur les 10 ans qui viennent, deux phénomènes étranges, réellement un. Il établit la théorie de la capillarité. Et un deuxième phénomène, il démontre la tendance vers la loi normale.
Que nous appelons tous courbe de Gauss.
Voilà, ce qui quand même, pour un homme qui avait décidé d'arrêter les sciences, n'est pas trop mal.
D'un point de vue politique, j'ai toujours entendu dire que c'était quand même une belle girouette.
Il y a un texte qui est paru dans le dictionnaire Napoléon. Et j'aime bien le citer parce que vraiment, il dit des choses fausses sur Laplace, tout en peut-être, sur le fond, n'étant pas complètement faux. D'un arrivisme alliant la servilité la plus basse à l'égard des puissants de ce monde à une arrogance extrême vis-à-vis de ses subordonnés, Laplace choisit la politique comme moyen de parvenir. Non, il a réussi, il aime l'argent, ça c'est indéniable. Girouette, sous l'Ancien Régime, on ne lui connaît qu'une relation, mais des relations, appelons-les mondaines, avec le duc d'Orléans, comme un certain nombre de gens. Sur le plan politique, ensuite, il est au contraire, il a un poste à l'école normale de l'an 3, ce qui est quand même assez extraordinaire, et une sorte de républicanisme. Il a même cette phrase étrange lors du coup d'État de Napoléon. Il est nommé par Napoléon, il ne s'y attend absolument pas.
Ministre de l'Intérieur.
Ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même le poste où on coupe les têtes. Enfin, tout le monde sait ça. Et Laplace écrit à des amis, et vraiment, là, c'est difficile de supposer qu'il mente. Il dit, et on va voir si ce Napoléon nous amène, alors il dit ce Bonaparte, hein, nous amène à plus de républicanisme. On peut dire qu'il est girouette, ou on peut dire simplement qu'il sait qu'il ne sera pas longtemps ministre.
Parce qu'il y est resté 15 jours, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Mais enfin, il établit dans la Constitution française le système métrique, c'est lui, et il établit, au fond, la structure du système des grandes écoles françaises. Là, il le fait pour l'école polytechnique, mais l'école normale n'a pas continué à ce moment-là. Mais c'est assez astucieux.
Pendant sa période de...
Pendant sa période, justement, c'est ça qui est intéressant.
Donc, il était apprécié par Bonaparte Napoléon, puisqu'il l'avait choisi comme ministre de l'Intérieur.
Tout à fait.
Il y a cette phrase célèbre que tu peux peut-être me rappeler, que quand il s'est fait virer par Napoléon, Napoléon a écrit une phrase pas gentille sur la place.
Ah oui, il a dit, il a mis dans l'administration l'esprit des infiniment petits. Bon, ben, ce sont des jolies phrases malgré tout.
En tout cas, il y a aussi une autre anecdote entre la place et Napoléon qu'on a tous plus ou moins en mémoire, c'est la présentation de son livre sur...
Le traité de mécanique céleste.
Traité de mécanique céleste. Est-ce que cette histoire est vraie?
Ah oui,
raconte-nous, parce que c'est pas
on
sûr
a,
que...
On n'a malheureusement aucune preuve écrite. C'est Victor Hugo qui raconte. Hein. Alors, bon, mais Victor Hugo n'est pas un homme qui trompe son monde hein, pour ce genre de choses-là. Sire, donc, ce qui date la chose, 1805, très certainement, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse à propos de Dieu. Et alors, ce qui est mal vu, je trouve, par beaucoup de gens, c'est de penser que cette phrase dit ce qu'elle dit, c'est-à-dire la place serait un incroyant. C'est pas cela, il reprend exactement les phrases du cardinal Bellarmine à Galilée. Il demande à Galilée, votre système est peut-être exact, c'est-à-dire le fait que la Terre tourne, hein, et il dit, mais gardez-le comme une hypothèse mathématique, physiquement. Ah, si on a des preuves du mouvement de la Terre, alors il faudra changer nos interprétations de la Bible. C'est-à-dire que cette idée qui est celle de Laplace, c'est un agnostique, mais un agnostique sceptique. Vous n'avez pas le droit de déduire Dieu, mais vous n'avez pas non plus le droit de déduire contre Dieu.
Parce que du côté de Napoléon, c'est pas très clair quelles étaient ses croyances.
Il est athée.
Il est athée, mais j'ai lu une lettre un peu violente où il s'attaquait contre un académicien qui avait osé dire publiquement qu'il était athée. Il
lui a demandé
il lui a demandé de se rétracter publiquement.
C'est contre Lalande, hein, l'astronome. Simplement, Napoléon venait de signer en 1802 le Concordat. Et Laplace l'accepte.
On a donc nos deux héros, d'un côté Napoléon Bonaparte et de l'autre côté Laplace, qui se connaissent bien.
Ils se connaissent bien.
Et ce côté un peu peut-être unique dans l'histoire de France, où on a un homme au pouvoir qui s'intéresse à la science.
Exactement.
C'est quand même peut-être la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire.
Exactement. Ce qui est intéressant dans le phénomène de Laplace avec Napoléon, Laplace ne cherche, et là vraiment on peut regarder dans le détail, ne cherche toujours qu'à promouvoir un certain esprit scientifique. Le tsar, c'est-à-dire l'ennemi, hein, est à Paris. C'est la même chose que l'arrivée de Hitler à Paris en octobre 40. Hein. C'est fini.
Et bien sûr, Napoléon n'est pas dupe.
Napoléon n'est pas dupe, mais ce qui est étonnant, et c'est là Laplace va jouer un rôle, c'est que le tsar fait une déclaration. Une déclaration qui est publié aussitôt par les journaux français, le Moniteur, etc. Tout de suite, c'est dans la journée, hein, c'est disponible, dans laquelle il dit « Je ne suis pas venu pour restaurer la monarchie ». Et deuxièmement, c'est aux Français, et en l'occurrence au Sénat, c'est aux Français de décider quel régime ils veulent et éventuellement la République s'ils le veulent.
Il faut préciser que Laplace est sénateur depuis 1799, et qu'en 1814, il est chancelier du Sénat. C'est donc à lui que revient le devoir de signer, ou non, l'abdication de Napoléon.
Est-ce que Laplace a rencontré le tsar ? Ou en tout cas, il y a eu des émissaires qui lui ont fait comprendre que le Sénat fait un premier vote. On est le 3 avril. Avec deux choses, Napoléon est abdiqué. Le Sénat a le droit, et le Sénat lance un projet constitutionnel. Laplace n'est pas présent à ce moment-là. Il n'est pas à Paris. Là, il y a un petit côté, est-ce qu'il a appliqué l'ordre, soi-disant, de Napoléon de quitter Paris ? Et il a des petits ennuis parce que ce sont des Polonais qui occupent sa maison. Mais à la façon des Polonais de ce temps-là, c'est-à-dire qu'ils saccagent tout. Et Madame Laplace n'est pas contente du tout. Enfin bref, pendant un jour, oui, Laplace ne fait rien. Sans doute, il consulte ses amis, Monge, très certainement Monge, Lacépède. Laplace n'a pas beaucoup d'amis politiques. C'est pas un ami de Talleyrand, ça c'est clair.
Monge était sénateur aussi.
Monge était sénateur. Et Monge est resté un ami de Laplace, même si Laplace méprise le genre de géométrie que fait Monge. Mais enfin ça, on est à un autre niveau de discussion.
Et Monge, alors, Monge était un ami proche de Napoléon.
Et Monge est un grand ami de Napoléon. Je suis presque sa mère, disait Napoléon.
Alors, il signe ou il signe pas l'abdication ?
Alors, il met du temps. Et finalement, le 6, il signe. Et il ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'il signe, et du coup, ça prend loi. Trois jours plus tard, Napoléon abdique officiellement, mais son abdication n'a presque... Ah bon, c'est celle qui est la plus importante. Mais constitutionnellement, il faut bien regarder les affaires, c'est que du coup, le passage de régime va s'opérer sans coup d'État. Hein, c'est-à-dire que Louis XVIII va être appelé, alors ça c'est un coup de Talleyrand, mais le régime Napoléon n'est plus là. Conforme à ce qu'a demandé Alexandre, pas discuter avec Napoléon, je ne discute pas. Alors ensuite, il y a tout un conglomérat de gens qui s'arrangent à le faire devenir chef d'État de l'île d'Elbe. Très bien, frère. Mais le phénomène est, la continuité de l'État est garantie par le Sénat. Et la signature de la place, c'est, si l'on veut, c'est la France le gouvernement français continue, simplement, il y a un nouveau régime. La chose qui a changé, quelques jours après le 9-10 avril, la chose qui change, c'est ce que le Sénat voulait faire. Carnot en était un des piliers. Ce que le Sénat voulait faire, à savoir rétablir une constitution républicaine.
Alors attends, tu nous as parlé de Carnot. Quelle était la position de Carnot à l'époque ?
Alors, Lazare Carnot à l'époque, qui s'était mal entendu avec Napoléon, mais qui, au moment de la défaite, je veux dire à partir de, grosso modo, janvier 14, a accepté une position nouvelle et il va devenir défenseur de la place d'Anvers. Anvers appartient aux Français à ce moment-là. Alors, donc Carnot n'est pas à Paris. Et il est certain que... Si Carnot avait été à Paris, peut-être que les positions auraient été un peu différentes. Mais le Sénat a donné l'abdication, donc il est possible d'envisager quelque chose. Talleyrand s'arrange pour que le Sénat ne discute pas vraiment une nouvelle constitution et fasse appel, c'est nouveau, la place ne joue plus de rôle là, ne fasse appel aux descendants naturels des rois de France.
Laplace est quand même un homme qui avait aussi conscience que le futur de son pays était en jeu.
Et que le futur de son pays est sans doute un homme qui est conscient qu'il ne faut pas laisser une réaction monarchiste s'installer dans l'orbite de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne va pas expliquer quelle est la nouvelle constitution qu'on peut faire. Ça, c'est pas son métier, il n'est pas juriste, etc.
Napoléon revient.
Alors, Napoléon, exactement. Alors,
quand il revient, qu'est-ce qu'il dit à Laplace ?
Alors, on est à peu près sûr de cela, parce que Laplace a été de nouveau mis sénateur par Louis XVIII en 1814.
Avec le même salaire ?
En juillet 1814. Ah, non.
Pas le même salaire ?
C'est nettement moins bien.
Il garde son appartement ?
Nettement. Non, il n'a plus l'appartement. Ça, c'est clair qu'il a perdu un certain nombre de choses. En même temps, sa femme a perdu aussi quelque chose. Sa femme était dame d'honneur d'Élisa, duchesse de Florence, sœur de Napoléon, ça a l'air de rien. D'ailleurs, on a un cas, c'est vrai que c'est un cas comique, ça permettrait une scène de vaudeville terrible, c'est que ça ne plaît pas du tout à Laplace que madame, sa femme, soit dame d'honneur d'une femme. La cour à Florence, c'est une cour libertine, réellement. Hein, et sa femme est là. Et alors, il envoie une lettre extraordinaire qu'on a à sa femme, mais qui est faite pour être lue par Napoléon. Ça, c'est clair. C'est, vous me direz, madame, comment il est possible que vous ne reveniez pas vivre avec votre mari. Vous me direz si ça sont les nouvelles mœurs. En fait, c'est tout à fait... En gros, je suis cocu, mais je ne l'accepte pas.
Laplace n'était pas un libertin.
Non, vraiment pas.
Napoléon revient.
Alors, Napoléon revient, comme tu dis, Laplace se fait porter parole. Laplace restera absent, totalement absent, dès 100 jours. Il n'est pas là. Alors,
Il attend que ça se termine ou il a...
Ah oui, c'est clair.
Il a compris que ça ne durait pas longtemps ?
Il a pensé que ça ne durait pas longtemps. En tout cas, il n'est pas là. Il faut dire qu'il a eu une expérience avec Napoléon, là, sur le plan humain. Alors, on est sûr de cette affaire-là. Laplace a une fille, Sophie, qui meurt en couche. Elle a 20 ans. Napoléon reçoit Laplace... a été averti du décès, qui touche la place profondément. Et lui, mais vous êtes mathématicien, vous faites A égale B égale C, et puis c'est comme si c'était égal à zéro, ça n'a aucune importance. Je crois que là, très bien, tu reviens de l'île d'Elbe. Non, je n'ai pas de preuves.
Carnot avait écrit ceci. Monsieur le président de l'Académie des sciences, de l'Institut, l'empereur a reconnu l'inconvénient qu'il y a de laisser vacante dans la section de mécanique de la première classe de l'Institut la place que Sa Majesté est obligée de laisser inactive de fait. Sa Majesté tient cependant à honneur d'avoir dû cette distinction scientifique comme simple particulier au suffrage de ses anciens collègues, mais aujourd'hui, en sa qualité d'empereur, le titre de protecteur de l'Institut est celui qu'il convient de lui donner dans les listes qui seront imprimées, sans cependant oublier d'y rappeler qu'il a été élu le 5 niveaux de l'an 6. Je vous invite, Monsieur le Président, conformément à l'ordre de Sa Majesté, à faire nommer le plus tôt qu'il vous sera possible à la place réputée vacante dans la section de mécanique, en vous conformant d'ailleurs à ce qui est prescrit par les règlements. Agréez, Monsieur le Président, l'assurance du mode de considération. Donc, on a l'impression que c'est une punition. Napoléon punit l'Institut de son comportement.
En 1816, c'est un homme âgé, un homme très, il va mourir en 27. Ce qu'il fait, c'est de l'histoire. L'histoire des maths. Et son dernier volume, le volume 5 du traité de mécanique céleste, c'est une histoire. Elle est bien faite. Hein. Elle est drôlement bien faite. Il entre en 1816 à l'Académie française. Très, très beau discours. Dans lequel il fait avaler à l'Académie française, ce qu'en 1816 est pas mal, le passage de la Révolution. Hein, gentiment, c'est-à-dire ben, il défend pas Robespierre, ni les exécutions, mais enfin, c'est la France. Et il entre au Sénat et il a une position de conservateur, c'est-à-dire qu'il va être pour des lois assez restrictives sur les votes des uns et des autres, mais il continue la société d'Arcueil, donc une vie active au service de la science jusqu'en 1822. À l'Académie française, il n'a pas un rôle véritable.
Il est présent aux séances de l'Académie des sciences ?
Ah oui, il est présent et presque à toutes les séances, jusque pratiquement un mois ou deux avant sa mort. Il y a un magnifique discours de Fourier à la mort de Laplace. Vous avez été saisi d'une terreur, l'homme que vous aviez toujours connu, Laplace. J'arrête donc la séance. On apprend la mort. J'arrête la séance à l'Académie des sciences parce que c'est trop émouvant, etc.
Vous avez entendu la Callas, la divine, chantant la Vestale de Spontini. Spontini est à Paris depuis 1803. Il a de forts soutiens sous l'Empire. Joséphine l'a nommé compositeur particulier de sa chambre. Il a par ailleurs composé une cantate à la gloire de Napoléon. La Vestale date de 1807. La Rome antique et la période préférée de Napoléon, celle à laquelle se réfère l'Empire. Il est facile d'identifier le général Lucinus de l'opéra à l'empereur.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.